Ceci n'est pas une défaillance de votre podcast. N'essayez donc pas de régler le son. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les fractales et les atonales.
Nous pouvons nous noyer et vous noyer sous un millier de larsen, dilater un simple son jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre audition et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir.
Pendant l'heure qui vient, nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du podcast.
Donc voilà, juste pour vous dire qu'on a sué 30 morts pour enregistrer ce podcast avec Antoine et Julien et qu'on souhaitait vous faire une intro dédiée pour un petit peu, exorciser tout ça. Voilà. donc voilà, bonne écoute à toutes et à tous.
Et c'est la malédiction, Legacy of Kain.
Complètement.
Ne jouez pas à Legacy of Kain.
Ne touchez pas à ce... Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 39e numéro de Je Game Moi Non Plus. Tout d'abord, une excellente année à tout le monde et une émission de tous les dangers que, a priori, la magie du montage vous aura expliqué. Sans trêve de bavardage, je suis aujourd'hui avec deux chroniqueurs compadres, en l'occurrence Antoine. Salut Antoine.
Salut Mehdi.
Et Julien.
Salut Mehdi, bonne année.
Et bah bonne année
à
toi. Et oui, très bien. Qu'on commence vraiment sur les chapeaux de roue et qu'on ne s'attire pas le mauvais œil pour cette nouvelle émission qui va traiter de la saga Legacy of Kain. C'est une émission qu'on a voulu sous une thématique presque troublante tellement elle reflète les dangers de l'enregistrement de cette émission. Vous l'aurez compris un petit peu à demi-mot. On a eu certaines peines sur la première date où on était censé l'enregistrer. Et pour ce faire, pour revenir à cette émission, et avant de marquer un petit break et commencer de suite avec la première partie, on a décidé de la découper ainsi, comme on fait assez souvent pour l'essentiel de nos émissions, avec une petite introduction, ça fait un petit peu recette, hein, mais qui consistera en une présentation des épisodes qu'on aura choisis, donc ceux qu'on aura décidé de traiter et ceux en l'occurrence sur lesquels on s'appesantira pas décidément, et puis on sera vraiment marqué du sceau de la malédiction avec toutes les difficultés qui auront marqué le développement de Legacy of Kain et Soul River, des histoires d'annulation, des histoires de passage de staff, enfin on va pas vous spoiler en avance. On poursuivra aussi avec une thématique très marquée du côté de la dimension assez tragédique, mais là plus concentré sur l'histoire du jeu, et on essaiera de terminer avec une question de un petit peu presque, on peut oser dire un peu mise en abîme, donc de la quête du joueur et de ses avatars d'une certaine manière, mais ce sera un peu plus clair en situation. Et bien les amis, je vous propose de marquer une courte pause et on enchaînera tout de suite avec la présentation des différents opus de la saga Legacy of Kain. « comme promis, on va tout de suite démarrer cette émission sur la saga Legacy of Kain. En l'occurrence, en l'introduisant, quoi de mieux et quoi de plus clair pour ceux et celles qui n'auraient pas eu l'occasion d'y mettre les mains, de mettre les mains dessus. Pour le faire, je vais passer la parole à Antoine, qui va se charger un petit peu de nous éclaircir les nombres d'épisodes et leur contenu, Antoine.
Exactement, et surtout vous présenter, vous faire la sélection des épisodes choisis.
Oui.
Donc je vais tout d'abord commencer bien évidemment par le tout premier épisode, donc Legacy of Kain Blood Omen, donc sorti en 96 et développé par Silicon Knight, donc dirigé par Dennis Dayak et Ken McAuliffe. Donc c'est un jeu d'action-aventure type Zelda en vue isométrique, donc très narratif, avec des composants tels que voyage dans le temps, un anti-héros, donc on y reviendra, mais ce sont des éléments peut-être assez original, particulièrement l'aspect anti-héros, oui. Assez original pour être noté. Donc le jeu se déroule dans le monde de Nosgoth, un univers médiéval, donc régi par le Cercle des Neufs. Donc chaque gardien, donc chacun des neuf est assigné donc à un pilier qui serve à maintenir donc le monde de Nosgoth en vie en quelque sorte. Donc au début du jeu, donc la gardienne de l'équilibre Ariel est assassinée, les autres certains des gardiens deviennent fous et Nosgoth sombre. Donc dans l'introduction, on commence avec Kain, un noble tué par des bandits puis transformé en vampire par le mage Mortanus. Au cours du jeu, on tue donc un à un les gardiens sous les ordres du fantôme d'Ariel. Et donc à la fin, je crois qu'on ne vous a pas du tout prévenu, mais
on aura peut-être mis dans la foulée, vu que c'est l'émission, me dites un disclaimer comme quoi, mais c'est bien de le préciser maintenant, l'émission sera assez riche en spoilers, comme la plupart de nos émissions saga, de toute façon.
Exactement. Là, on est un petit peu obligé, disons que c'est plus un épisode destiné, on va dire, à
être spoilé.
À ceux qui ont... et spoiler à ceux qui ont déjà joué à la saga ou à ceux qui l'ont testé un petit peu il y a longtemps, qui aimeraient un petit rafraîchissement. Voilà.
Et à la fin, donc
je reprends. Et donc à la fin de Blood Omen, donc on a le choix entre se sacrifier pour rétablir l'équilibre, car au préalable on aura appris que Kain est le successeur d'Ariel. Donc le choix entre se sacrifier et le choix de refuser le sacrifice et donc de voir de faire sombrer le monde de Nosgoth et de devenir un petit peu le maître démoniaque de ce monde torturé.
Voilà. Vu que par définition il n'y a plus ces neuf piliers, je te reprends très brièvement parce que du coup il me semble que c'était c'est ce que tu nous en avais dit en amont, que c'était le mage Mortanus c'est ça, et non pas Mortanus, c'est ça?
Mortanus, oui.
Voilà, Mortanus, voilà, juste petite précision. Alors, en l'occurrence, donc là, on a un petit peu planté le décor pour la série en tant que telle. Donc, ce premier épisode, comme je disais, sorti en 96. Et après, ça va un petit peu bouger, un petit peu comme les piliers de Nosgoth, justement.
Exactement, on change totalement de direction. Le jeu est donc le jeu suivant, donc Soul River, sorti en 99, est développé cette fois par Crystal Dynamics, non plus par Silicon Knight. Ouais. Crystal Dynamics était déjà l'éditeur sur le tout premier épisode, mais ça on y reviendra aussi. Donc Soul River, développé par Crystal Dynamics sous la houlette de Amy Henning, que vous connaissez peut-être comme étant le lead designer sur Uncharted, sur la série des Uncharted.
Oui, qui l'a supervisé quand même assez globalement. On peut presque oser dire le mot pièce maîtresse.
Hein. C'est ça. Donc dans cet épisode, dans ce second épisode de donc Soul River, on incarne Raziel. Donc le jeu se déroule 1500 ans après donc le tout premier, après Blood Omen. Kain a bâti son empire, donc en tant que vampire il évolue sans cesse et il est ensuite succédé dans ses évolutions par ses lieutenants vampires. Donc la scène d'intro se déroule ainsi. Kain est assis sur son trône. Raziel arrive donc dans la salle avec des ailes. Sacrilège, il a osé évoluer avant Kain. Il est donc jeté dans le lac des morts. L'eau le brûle, parce que c'est un vampire, il faut faut rappeler. Il est récupéré donc par une sorte de dieu vivant dans les profondeurs, donc par l'ancien qui aidera Raziel en sa quête de vengeance. Voilà pour le pitch. Pour ce qui est de la partie technique, donc là on passe en 3D.
Oui.
3D pour adopter un style comparé à l'époque à Tomb Raider, même si bon, l'influence Zelda demeure. Hein. On a une structure assez classique avec des combats, des temples, des énigmes et des boss pour clore donc chaque niveau, entre guillemets, avec des gros guillemets, puisque Soul Reaver prend un aspect open world.
Enrobage graphique 3D, mais dynamique mécanique de jeu Zelda, pour faire simple.
C'est ça, c'est ça, grosso
modo. D'accord, ok. Voilà.
Donc techniquement, il fait vraiment une très grosse impression à l'époque, notamment par le biais donc, d'un système où l'on passe d'un monde matériel à un monde spectral en temps réel. Donc on a une annulation des temps de chargement.
Mais c'est vrai que c'est devenu très, très naturel pour nous, les touches de switch comme ça, de niveau d'un univers à un autre. Mais même, j'en parlais, ça me permet de faire un parallèle avec l'émission précédente quand je faisais ma chronique de Guacamelee. Et c'est vrai que les espèces de petites touches comme ça d'un monde des morts, monde spectral, matériel, immatériel, c'est devenu un truc très standardisé.
Ça vient de Zelda 3 à la base, je pense, de Zelda. À Link to the Past, où on passait du monde de la lumière aux ténèbres.
C'est vrai qu'il y avait le miroir, effectivement, le miroir, c'était pas magique, ou je ne sais plus, je ne veux pas chercher l'appellation.
C'est un petit peu la même mécanique, en tout cas, dans Soul Reaver, c'est-à-dire que ça, parfois il y a des passages qui sont inaccessibles dans l'un des deux mondes, on pénètre, on switch et on peut continuer l'aventure.
Tu fais bien de rappeler, ouais, j'avais oublié, donc il y avait clairement des antécédents. Donc on avait la fin du cliffhanger de Soul Reaver, premier du nom.
Oui, donc avant d'attaquer tout de suite à Soul Reaver 2, oui, je voulais parler encore une fois de la fin de Soul Reaver 1. Donc ce premier épisode de Soul Reaver se terminait par un vilain cliffhanger où Kane réussissait à s'échapper à l'aide justement de la machine à voyager dans le temps qu'il avait récupérée dans le tout premier Legacy of Kane, si vous suivez toujours. Et donc du coup, le deuxième épisode, sorti en 2001, voit Raziel poursuivre Kane à travers les différentes époques et découvrir les différents secrets en temps de Nosgoth.
Voilà. Donc Soul Reaver 2.
Soul Reaver 2, voilà. Donc Soul Reaver 2, il est plus linéaire que le premier, on a un petit peu plus de cutscenes et le rythme est assez étrange, c'est-à-dire on a les boss qui disparaissent de quasiment tout le jeu. Mmh. Donc le jeu aussi un petit peu entre exploration, énigme tordue et passage narratif. Et moi je trouve ça assez intéressant dans le sens où le jeu semble tenter de remplacer les boss en fait par des énigmes. C'est-à-dire des fois on a des temples immenses avec donc des énigmes impossibles à résoudre et pas de boss.
Voilà. Un autre marqueur de la progression, et c'est sûr que c'était assez osé, si on peut dire, à l'époque. Alors, on a parlé des épisodes qu'on allait évoquer. On va parler, en l'occurrence, d'un épisode dont on ne parlera pas.
C'est ça. Petite parenthèse sur l'épisode que nous n'évoquerons pas. C'est Blood Omen 2, donc sorti en 2002. Donc ce Blood Omen 2 se déroule dans un paradoxe temporel créé par Soul Reaver 2 et c'était un petit peu le vilain petit canard de la saga Legacy of Kain. Déjà il n'est pas, encore une fois, il n'est pas développé par la même équipe, donc c'est ni Silicon Knight, encore une fois je suis désolé, je n'ai pas vérifié, mais ça ne doit pas être Crystal Dynamics, en tout cas c'est une autre partie. Si c'est toujours Crystal Dynamics, ce n'est pas la même partie de l'équipe que les deux premiers Soul Reaver. Voilà.
Ok, très bien, très bien. Voilà. On t'excusera peut-être vu qu'on en parlera pas, mais de toute façon rien qu'une petite vérification pour nos auditeurs et auditrices, il n'y a qu'un pas jusqu'à Wikipédia ou autre.
Oui.
Voilà. Donc on garde vaguement les mécaniques des deux Soul Reaver globalement, et est-ce qu'il y a des petites autres modifications?
Kane, à part ça, je vous avoue que j'ai pas testé Blood Omen 2, donc.
D'accord. Ok. Après, c'est vrai qu'en termes de retour, c'était pas foufou, et même sur les quelques let's play que j'ai pu zioter de mon côté pour approfondir l'émission, ça ne faisait pas plus envie que ça.
Oui,
Ouais. Oui.
de toute façon, là, pour ce podcast, on s'intéresse particulièrement à la narration globale, à la narration canonique, on va dire. Et puisque Blood Omen 2 se déroule dans un paradoxe temporel, donc créé par l'un des épisodes, il est moins intéressant que le reste de la saga. C'est d'un point
Ouais.
de vue narratif, c'est aussi une parenthèse.
Quelle pirouette pour justifier que tu n'as pas trouvé qui s'était chargé de... Et finalement, il y a une odeur un petit peu anxiogène à Nosgoth, mais qu'est-ce qui s'y passe depuis? Est-ce que les fans peuvent se mettre des choses sous la dent?
Attendez, Mehdi, n'allez pas
Non.
aussi vite,
Pas aussi
monsieur
vite dans
Mehdi,
la
vous aviez joué
malédiction? Pas aussi vite, hein.
à gagner. Non, je voulais, avant de parler un petit peu des dernières malédictions, je voulais parler de l'épisode narratif final. Je voulais parler de Legacy of Kain, Défiance,
Ah.
très, très rapidement, où l'on incarne à tour de rôle donc Kain et Raziel. Donc dans celui-ci, bon, c'est un épisode qui est un petit peu moins bon que donc les deux Soul Reaver et Blood Omen. On garde vaguement les mécaniques des deux premiers Soul Reaver, mais le jeu ajoute un petit peu des combats et des boss assez inintéressants, il faut bien le dire. On perd en qualité niveau gameplay, on a un petit peu affaire à un espèce de sous-Devil May Cry. Les graphismes, je trouve, sont moins intéressants, plus colorés, moins post-apocalyptiques, mais c'est un épisode qui, toutefois, reste assez intéressant pour sa narration et pour la conclusion malheureuse qu'elle apporte donc à la série globale.
OK.
Puisque, comme tu l'as rappelé, je vais peut-être arrêter de te vouvoyer.
C'est la première fois, donc ça ira.
comme tu l'as rappelé, donc avant que je résume Défiance, Legacy of
Oui.
Kain Défiance. Oui, donc on a eu quelques annulations. On a eu particulièrement un jeu Legacy of Kain annulé donc dernièrement, l'annonce d'un jeu annulé. C'est Legacy of Kain Dead Son. Qui a été annulé en 2012 et dont nous pauvres joueurs avons eu vent là très récemment, il y a à peu près un an, puisque 30 minutes de gameplay ont filtré.
Oui, et
Voilà.
puis.
Mais encore une fois, on évoquera cet épisode un petit peu plus tard, dans le sens où il fait partie, où tout cela fait partie un petit peu de la thématique globale de cette émission, à savoir le drame et la malédiction,
Oui, c'est ça.
puisque la série Legacy of Kain est très marquée par la tragédie, autant dans ses thèmes que finalement dans sa conception.
Donc, juste, je ne sais pas si tu as précisé, donc ça aurait été un jeu multijoueur. Histoire d'en rajouter un petit peu.
Non, 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 non,
Non,
non, non,
pour.
mais on a un jeu multijoueur qui va
Ah, c'est
sortir.
distinct. Eh ben, écoute, tu fais très bien de préciser. Donc, le jeu multijoueur va sortir, mais il y a eu ce fameux Dead Son annulé en 2012. Voilà,
Oui,
les
c'est ça.
morceaux sont reconnectés. C'est parfait, ça évitera toute confusion pour nos auditeurs auditrices. Eh ben, très bien. Ça nous permet derrière ce cafouillage corrigé d'une main maîtresse et non maudite par Antoine, de pouvoir justement revenir sur la thématique de la malédiction dont vous parlez. Donc on va marquer une petite pause et on va se concentrer sur le saut tragique qui a marqué le développement et la conception des jeux de la série Legacy of Kain. On vous l'annonçait dès le début de l'émission, Legacy, ça aurait pu être un peu le sous-titre, hein, Legacy of Kain, saga maudite. Alors en raison, déjà un truc qui n'arrange pas tout projet artistique de ce nom, enfin un projet collectif du moins, beaucoup de changements de main, Antoine. Hein.
Oui, Oui, exactement. Donc, comme je l'évoquais, donc lors de la présentation des épisodes, donc de Blood Omen à Soul River, le jeu passe des mains de Silicon Knight à Crystal Dynamics. Et donc, il passe sur un litige. Puisque Crystal Dynamics, comme je vous le disais, était éditeur du tout premier épisode de Blood Omen, et pour Soul River, il passe plus qu'un petit peu devant Silicon Knight. Il récupère les droits de la série sans l'accord de Silicon Knight. Donc Silicon Knight, bien évidemment, colle un procès à Crystal Dynamics et malheureusement le perd. Voilà. Donc voilà, donc là actuellement la totalité des droits de Legacy of Kain revient à Crystal Dynamics, eux-mêmes rachetés par Eidos, eux-mêmes rachetés par Square Enix. Voilà, en gros la saga Legacy of Kain appartient à Square Enix actuellement.
Voilà.
Pour revenir sur Silicon Knight, donc développeur de Blood Omen, premier épisode de Legacy of Kain, moi je voulais dire que la boîte continuait un petit peu d'être poursuivie par la poisse à la suite de la conception de Legacy of Kain, c'est peu de le dire, puisqu'on a notamment cette seconde histoire de procès avec Epic Games. Mm-hmm. Et je te laisse peut-être en parler. Parler un petit peu plus, Julien.
Juste en quelques mots, l'histoire du procès avec Epic Games, c'est qu'en fait Silicon Knights avait attaqué Epic Games sous prétexte que les services fournis pour leur moteur Unreal Engine n'étaient pas à la hauteur de ce qui était promis, ne serait-ce que ce soit dans les performances ou dans le suivi. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement Silicon Knights a perdu le procès et ils ont été obligés de retirer de la vente, je crois, leur jeu, c'était Too Human.
C'est ça, exactement.
Qui n'est pas un jeu non plus extraordinaire qu'on a pu essayer avec Mehdi.
Oui, mais qui est devenu collector malgré lui.
Oui, c'est ça. En fait, il est plus dispo sur les plateformes de téléchargement, mais on peut encore le trouver d'occasion assez facilement. Mais en tout cas, un jeu, voilà, il resterait peut-être des traces d'Unreal Engine.
Dans les terres.
C'est ça. Donc voilà, pour l'histoire un petit peu de finalement, ça s'est retourné contre eux. C'est ça que je voulais amener.
Et de la Shumun procès Epic Games à une autre, il n'y a qu'un pas, Antoine, mais bon, celui-là un petit peu plus dramatique, on va dire.
Donc la seconde tête donc de Silicon Knight, qui a donc énormément participé à Blood Omen, Ken McAuliffe, a été condamné pour pédophilie. C'est pas drôle du tout.
Non.
Voilà. Ensuite, on a aussi un autre aspect de la poisse Silicon Knight, à savoir donc Denis Dayak. Donc
peut-être juste avant que tu poursuives, même si c'est c'est assez évident oui et non, mais juste pour la dimension sociale, c'est que même Ken McAuliffe n'était plus trop en note de santé, et surtout qu'il a été plus ou moins blacklisté, voire son nom a été retiré de pas mal des éléments sur lesquels il a travaillé.
En tout cas, oui, blacklisté.
Pardon.
Des éléments sur lesquels il avait déjà travaillé.
Ils ont été un peu plus discrets pour mentionner son nom, même sur des travaux sur lesquels il avait été. Voilà. Juste pour précision.
Et donc Denis Dayak, pour terminer, a été aussi accusé en 2013, il me semble, par un article de Kotaku, de très très mal gérer son équipe, de presque les harceler, voire de les miner psychologiquement. Et donc, pour enfin terminer sur toute cette poisse, on clôturera avec le dernier épisode d'Eternal Darkness, donc série de survival horror donc développée par Silicon Knight, Shadow of Eternal, tu veux le présenter rapidement.
Oui, très brièvement, pour Eternal Darkness, sorti sur GameCube, et qui avait donc la particularité de beaucoup jouer sur les ambiances, s'inspirer carrément de Cthulhu, et s'inspirer d'ambiances aussi très Edgar Allan Poe, et de dimensions fantastiques, au sens vraiment premier du nom, presque Maupassant sur l'Orla et compagnie, de sombrer dans la folie. On avait des petits effets très très bien trouvés, du type lorsqu'on rentrait dans une pièce, il ne restait plus que la tête de notre personnage incarné sur le moment, ou lorsqu'on sortait d'une pièce à l'arrivée dans une nouvelle salle, on se retrouvait avec le son qui montait tout d'un coup ou descendait tout d'un coup sans qu'on le veuille, en étant persuadé qu'on s'était assis sur la télécommande, alors qu'en fait c'est le jeu qui se jouait de nous. Donc voilà, ce type de survival horror qui malheureusement n'aura pas eu de suite vu là.
C'est ça.
Finalement, la GameCube, c'est un petit peu l'âge d'or, on peut dire, de Silicon Knights, parce qu'ils ont fait Eternal Darkness et puis le remake du Metal Gear Solid, la Twin Snakes.
C'est vrai, effectivement. Oui.
Il faut le rappeler. Et oui. Et donc, oui, Silicon Knight, aussi célèbre que la GameCube, ça veut tout dire, je trouve.
le troll gratuit. Ce troll vous est offert par Antoine. Justement, après cette transition hashtag mauvaise foi, après ce changement de main, donc on est arrivé à une première annulation.
Oui, alors la première annulation, donc c'est tout simplement Kain 2, qui devait être donc la suite directe de Legacy of Kain Blood Omen, oui. Donc suite préparée par Silicon Knight. On a très très peu de détails, hein, puisque la prise en main, on va dire, de la saga par Crystal Dynamics est intervenue très vite. Donc Silicon Knight n'a pas réellement eu le temps de se pencher sur ce second épisode de Kain.
Oui.
Voilà.
Assez logique. Donc, est-ce qu'il y a d'autres précisions ? Oui, tout de suite.
Sur Kain 2, non. Pas,
d'accord. Très bien.
Pas les plus intéressants. Voilà. Non, on va passer à un épisode peut-être un petit peu plus intéressant, un petit peu plus parlant aussi pour la suite de la saga, c'est-à-dire Soul Reaver 1. Ouais. Donc Soul Reaver 1 ne devait pas être en fait un épisode de Legacy of Kain à la base, mais une propriété intellectuelle originale qui devait s'appeler donc Shifter, et qui narrait l'histoire donc d'un ange déchu par un dieu maléfique. Et donc qui s'inspirait fortement de Paradise Lost, Paradise Lost, donc poème du 17e siècle écrit par John Milton, et contant l'histoire de Satan.
Oui, et dont on trouve alors peut-être un petit peu plus parlant beaucoup de références, mais qui sont postérieures à Milton avec Blake, qui d'ailleurs dédie une préface au Paradise Lost, donc au Paradis Perdu, dans un, je crois, de ses recueils de poèmes. Voilà, William Blake, pour pas
trop virer
dans la familiarité. Julien.
Oui, il y a un jeu un petit peu oublié qui s'appelle, je le mentionne rapidement, Akuji the Heartless, qui est sorti à l'époque et qui est un peu aussi, qui est édité par Silicon Knights, Crystal Dynamics, et qui est un petit peu au niveau du moteur, je pense, et aussi dans les thématiques, puisque là on incarne, ça se passe dans l'univers du voodoo.
Oui, c'est ça, folklore.
Voodoo, et je pense qu'il a peut-être servi aussi un petit peu en termes de technique. Pour tester des choses qui ont ensuite été reprises dans Soul Reaver.
Ouais, avec une jaquette slash pub, enfin, je parle perso, assez traumatisante à l'époque, parce qu'on avait le héros, bon, suffisamment rare pour être mentionné, un héros noir, avec un masque, une tenue, on peut supposer, typiquement ou fantasmé vaudou, et qui avait une espèce de dague dans une main et un cœur dans l'autre. Donc voilà, ambiance. Très bien,
tout le monde l'a oublié, donc c'est que...
Sauf moi. Donc, nous sommes la mémoire du jeu vidéo. Antoine, tu allais dire poursuivre.
Oui. Alors, donc, nous allons terminer sur cette saga d'annulation et de transfiguration. Donc, le dernier épisode que j'ai déjà évoqué, donc Legacy of Kain: Dead Son, donc développé quand même entre 2009 et 2012 par Climax, édité par Square Enix, et dirigé surtout par Sam Barlow, qui est le développeur de Her Story.
Oui. Et de Silent Hill, Shattered Memories. Je sais plus, ici, il l'a dirigé, oui, il n'était pas seulement au scénar.
Il l'a dirigé,
oui. Il l'a dirigé, on est d'accord. Très bien.
Voilà, pour terminer, Dead Son devait être donc un reboot de la saga, et pour vous donner un petit peu une petite idée, bon, déjà, on vous laissera aller voir les 30 minutes de gameplay. Et moi, je comptais relever aussi une petite phrase qui, je trouve, dit pas mal, même sur la saga des Soul Reaver,
ouais.
Donc qui décrit le jeu comme étant une espèce de jeu Zelda fait par HBO. Voilà.
D'accord. Bah, tu veux peut-être nous la faire en mode anglo-saxon, vu qu'on parlait de Milton et de William Blake. Honorons-les, comme diraient les plus grands chroniqueurs du jeu vidéo, dans la langue de Shakespeare.
Think if HBO did Zelda.
Rien que ça.
Et bah, wow, c'est beau.
Voilà, bah, bon. Maintenant, vous n'aurez plus que 30 minutes pour pleurer et ne jamais pouvoir mettre les mains là-dessus. Très bien, très bien. Bon, et bah, c'est parfait. Est-ce qu'on a fait le tour des changements de main, de la malédiction bien gratinée et des autres annulations?
On n'a jamais fait le tour, mais dis.
Attention, ne nous repère pas dans une boucle temporelle, Antoine, on ne sait jamais.
En l'occurrence, oui, on a cité les plus importants,
très,
je pense.
Très bien. Et ben, s'il n'y a pas de précision de ton côté ou de celui de Julien, ben, on va justement rentrer dans le vif du sujet, en l'occurrence les jeux en tant que tels, et parler davantage de ce qui les caractérise. Avant ça, on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après. Soul Reaver, Legacy of Kain et toutes les sagas affiliées, on continue on vous l'annonçait, entre décadence et déchéance, rien que ça. Donc on va continuer de vous parler de ce monde dramatique de cette saga. On a vu que les créateurs s'en sortaient pas terrible. Le jeu, lui, au moins, c'est sa marque de fabrique. Donc, le jeu avec un monde un peu marqué par le drame et la tragédie, pour essayer de résumer, Antoine.
Exactement. Exactement. Et donc, pour introduire un petit peu cette grande partie, je voulais parler de la déchéance mentale et physique des êtres, des personnages peuplant la saga. Tout d'abord avec les héros, avec ces anti-héros que sont Kain et Raziel. Donc en traitant tout d'abord de la personnalité de Kain, de son évolution, Kain en quelque sorte devient un petit peu fou au cours de Blood Omen, et je dirais que sa folie se clôt au cours de Soul Reaver. C'est-à-dire elle se clôt en gros avec l'acte de jeter Raziel dans le puits. Alors si je l'énonce ainsi, si je dis que cette folie se termine, c'est parce que j'ai l'impression que, disons, cet aspect de sa personnalité ne ressemble pas au personnage global, au personnage notamment rencontré dans Soul Reaver 2. Oui. Alors bon, c'est peut-être le syndrome de Stockholm, hein, mais en tout cas, oui, on a quand même un petit peu deux Kain, voire trois Kain qui se dessinent, donc un au tout début de Blood Omen, donc ce noble, un Kain devenant fou, et un Kain reprenant un petit peu ses esprits et tentant justement de découvrir les différentes vérités peuplant le monde de Nosgoth.
D'accord, donc presque autant de Kain qu'il y a eu de versions enregistrées de cette émission.
Exactement. Voilà. Exactement. Pour passer à Raziel, alors Raziel, lui, ne devient jamais fou, mais on notera sa décrépitude physique extrêmement importante,
oui.
Son aspect extrêmement décharné, et peut-être que je vais laisser la parole à Julien, qui avait été presque traumatisé par le physique de Raziel.
Non, c'est pas ça, c'est juste que... En fait, Raziel masque la partie inférieure de son visage est complètement détruite, et on a la possibilité, en jouant un petit peu avec les caméras, parce que parfois on voit dans les jeux quand on joue avec les modèles, même parfois ensuite quand les moteurs sont diffusés tout ça sur le net, on voit que finalement c'est masqué par des détails où c'est pas directement comme ça dans le modèle du personnage. Je pense par exemple, ça n'a rien à voir, mais à MGS2 où la pluie sur Snake est intégrée directement au perso. Enfin, il y a plein de petites astuces pour tricher comme ça. Et là, non, effectivement, quand on absorbe les âmes des ennemis qu'on a tués avec une touche, ce qui permet à Raziel de récupérer de la vie, on se rend compte effectivement, oui, que le personnage est complètement décharné. Et, effectivement, cette décrépitude est plutôt graphique et on insiste bien dessus.
Ça fait envie, hein. Décharné, délivré, d'aucuns diraient. Alors pour les moins décharnés dans cet univers, Antoine, comment ils s'en sortent?
Les moins décharnés, ils ne s'en sortent pas vraiment mieux. Donc on a notamment donc les humains dans Blood Omen 1,
ouais.
dont la folie est retranscrite généralement à travers les lieux traversés par Kane. Donc retranscrite dans l'architecture, dans les détails de leur demeure, particulièrement le premier gardien, le premier lieu. Donc c'était le gardien de l'esprit. Et donc dans son lieu, on parcourt des pièces de torture où des humains sont prisonniers, restent prisonniers. Voilà, donc on a encore une fois un paysage mental horrible traduit de façon graphique. Ce qui est aussi assez intéressant pour être...
Nosgoth, un lieu où il fait bon vivre.
Eh ben oui, bien sûr.
Et tout ça, ça se reflète aussi dans un autre élément, justement.
Et exactement, dans Soul River 1, on a un parallèle qui est très marqué, un petit peu entre ces humains et les différents lieutenants de Kane. Donc comme je vous l'ai expliqué, dans Soul River 1, Raziel donc est jeté dans le lac des morts.
Oui.
Et il met un petit peu du temps à sortir de ce lac des morts, parce qu'il est un petit peu profond quand même, ce puits. Et du coup, donc du tout début de Soul River 1, où on voyait donc les lieutenants de Kane d'apparence assez classique, anthropomorphique, seulement des vampires au teint pâle. Au moment où l'on joue, au moment où l'on contrôle donc Raziel chassant donc ses anciens frères, ces lieutenants ont totalement changé ces lieutenants immortels ont totalement changé d'apparence. Ils sont devenus d'horribles monstres. Et donc ici, on a clairement une inspiration d'une phrase de la fameuse Anne Rice, donc romancière ayant énormément écrit autour des vampires, oui. Notamment à travers Entretien, je ne sais plus exactement si c'était le titre du bouquin par contre, Entretien avec un vampire.
Il me semble, je ne sais pas si c'est le cas, Julien, moi dans mes souvenirs, oui, c'était le...
Il me semble aussi, c'est une série, je crois, de romans.
C'est ça. Et donc la phrase, donc Anne Rice disait, il faut pouvoir être endurant pour être immortel. Et là ici, dans Soul River 1, on a exactement ce cas de figure, dans le sens où ces lieutenants ne ressemblent plus à grand chose. Particulièrement le premier qui se déplace uniquement sur ses deux pattes avant, qui rampe en quelque sorte et qui n'a plus rien, absolument plus rien d'humain.
D'accord.
Si vous voulez ajouter quelque chose.
Dans le premier, dans Blood Omen aussi, il y a la devise de Kane qui est Ve Victis, malheur au vaincu. Ouais. Et parce que c'est un noble, hein, Kane, il est un petit peu cultivé. Et effectivement, il prononce assez souvent après avoir trucidé des rangs entiers de personnages, il y a cette dimension, voilà, de malheur et de déchéance déjà qui est inscrite dans le personnage à travers cette devise.
Donc les nobles, ça parle latin et ça jette les gens dans le puits. Et les puits, en général, ça a plutôt un chouette design. Et c'est autre chose qu'on retrouve justement de cette folie qui est retranscrite dans le jeu, c'est la dimension de l'architecture.
Oui, tout à fait. Tout à fait, comme je l'ai déjà évoqué, l'architecture donc des différents lieux traversés, donc non seulement dans Blood Omen 1, mais dans Soul River 1,
oui.
où l'on traverse des paysages post-apocalyptiques, où les lieux sont réellement vidés. Mais encore une fois, on en parlera peut-être un petit peu dans une partie ultérieure, dans la partie qui suit d'ailleurs.
Oui, mais sans trop s'avancer, on peut presque oser dire que c'est un personnage presque à part entière, l'univers au sens global et l'architecture en particulier. Donc on s'arrête pas en si bon chemin de décadence, parce que après les décadences, comme on vient de le voir, mentales et physiques des êtres dont tu viens de parler, Antoine, et ben il y a toute une peuplade à Nosgoth, et comme on l'a déjà dit, avec l'apparence des êtres humains et des autres êtres, ils s'en sortent vraiment pas bien, et justement, c'est, il y a quand même des origines, il y a quand même un terreau de référence par rapport aux, justement, aux civilisations qu'on retrouve dans Nosgoth.
C'est ça, c'est ça. Donc la décadence de ces civilisations successives, donc peuplant Nosgoth. Là, pour cette partie, je voulais l'introduire en vous parlant donc du gnosticisme, qui a pas mal inspiré donc la saga des Legacy of Kain. Donc le gnosticisme, c'est un courant religieux croyant en un dieu mauvais et manipulateur, créateur de notre monde. Et donc le but des êtres, c'est de devoir atteindre le monde spirituel dans le but de retrouver le bon dieu distant. Mmh. Oui. Donc en l'occurrence le dieu mauvais créateur de Nosgoth, c'est un petit peu l'ancien dont je vous avais déjà parlé en introduction en présentant les épisodes. Alors là, c'est le spoiler ultime, hein. Je vous préviens juste après, mais
hashtag dans la gueule, ouais, une fois que vous savez ça, vous pouvez plus vous en relever. Donc juste un petit mot pour dire que dans la question du gnosticisme, on retrouve pas mal ça dans un autre jeu qui était la série des Xenosaga, matinée de un petit clin d'œil au passage à Gaëtan qui aime à le citer. Matinée de Nietzsche et autres univers d'animés de méca tels que qu'Evangelion. Voilà, si vous ne connaissez pas Xenosaga, aussi un bon moyen de découvrir, même si le premier a pas mal pris dans la tronche, ne serait-ce que visuellement. Monde spirituel, chute spirituelle, pourrait-on dire au niveau de la rime riche, peut-être, Antoine.
Oui, un monde en chute perpétuelle. Même. Donc, à travers cet aspect de monde en chute perpétuelle, le jeu insiste lourdement. C'est-à-dire, par exemple, en Soul Reaver 2, quelque chose d'assez particulier, le voyage dans le temps ne nous envoie jamais durant le supposé âge d'or. On peut même se demander si cet âge d'or a jamais existé. Mmh. Donc là, on a réellement un emprunt au genre du drame. Puisque non seulement nous ne sommes jamais envoyés durant l'âge d'or, mais en plus on arrive toujours trop tard. Et à chaque fois qu'on arrive à une époque, tout est déjà perdu. Tout s'est déjà déroulé. On a une très lourde fatalité voilà, dans cet épisode, oui. Où l'on débarque en quelque sorte après la bataille.
Voilà. C'est pas mal comme ressort de frustration pour le joueur. Et comment ça s'incarne donc finalement cette décadence dans le jeu? On l'a un petit peu amorcé d'une certaine manière. On va pas jouer les innocents jusqu'au bout.
Oui, eh bien à travers le graphisme, à travers les pierres, à travers les fresques murales, on a vraiment cette esthétique qui évoque un petit peu les films allemands des années 20, donc expressionnistes et autres. Donc encore une fois, une esthétique marquée un petit peu par un aspect post-apocalyptique où l'on parcourt d'anciens temples vides, où on parcourt un monde finalement constamment dépeuplé, défertilisé. Oui. On croise très peu de personnes finalement dans ces épisodes, même lorsque l'on parcourt les époques où les humains règnent encore. On n'a pas une impression de réelle joie. Voilà.
Oui, c'est sûr. Alors après, deux références. Une, peut-être pour pas trop laisser les auditeurs et auditrices sur leur faim, vu que tu parlais de films allemands expressionnistes des années 20. Est-ce que tu en aurais quelques-uns, pas pour faire du name-dropping, mais juste pour mettre peut-être les auditeurs et auditrices sur un petit peu sur la voie de ces esthétiques-là, et s'ils n'en ont pas déjà vu
Le cabinet du docteur Caligari, ouais. Je dirais. Et peut-être, là, particulièrement pour l'architecture, l'architecture des lieux Nibelungen de Fritz Lang.
D'accord. Bon, histoire de se raccrocher à quelque chose. Bon, il n'y a pas de personne à la mâchoire arrachée dans ces deux films, mais ça permettra peut-être aux plus curieux et aux plus curieuses de se faire une idée. Et puis, tout ce que tu nous décris depuis tout à l'heure, c'est pas pour faire un deuxième clin d'œil à un ami chroniqueur qui n'est pas présent aujourd'hui, mais en l'occurrence Fred, pour le citer, mais ça fait penser cruellement quand même à l'univers des Souls, donc Dark Souls et compagnie. Cette dimension vide, cette dimension Alors d'arriver trop tard, je sais pas trop. Julien pourra peut-être compléter. Je sais pas si on a vraiment une insistance sur cette situation-là, puisqu'il y a une dimension un peu plus prophétique, non, Julien? Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, c'est vrai, c'est un petit peu ça. Après, je pense que ce qui est commun aux deux jeux, c'est peut-être la volonté d'avoir une narration par l'architecture ou, disons, laisser deviner un background à travers des décors, voilà, des petits éléments. Et si on prend le temps d'observer, soit on se raconte un petit peu, on comble un petit peu les trous de la narration, ou soit on arrive vraiment à trouver des éléments. Après, les Kane, quand même, la série des Kane est quand même plus narrative dans le sens où... Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard, je ne veux pas trop anticiper.
C'est sûr, mais en tout cas, ce que tu précisais pour Dark Souls, ça a été beaucoup souligné par Benoît Régnier, que la plupart d'entre vous connaissent plus sous le nom de Exerve, et qui avant d'être chroniqueur chez Game Cult, faisait donc des vidéos. Donc si vous avez été en galère sur la série des Souls, il y a des chances que vous ayez eu référence, que vous connaissiez au moins sa voix et son visage, et qui parlait beaucoup des objets récupérés. Et qui, comme tu viens de le dire, Julien, qui marquait un petit peu l'univers, en disait un petit peu plus. Là où je trouve que pour Demon's Souls, on est quand même sur un truc qui est plus ancré dans l'architecture en tant que telle. Progressivement dans la série, après avec les Dark Souls, on est beaucoup plus avec les objets ramassés qui nous en disent un petit peu plus. Voilà, voilà. Et par contre, Antoine, tu n'as pas parlé du cheat code du jeu avec la qui permet à la civilisation de se mettre à entonner des chants de Nosgoth. Nosgoth pumped up. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Après avoir volé honteusement cette blague, parce que je cite quand même mes sources à Quiche de Gamerside, qui m'avait fait beaucoup rire, ça nous permet de trouver un temps tout trouvé pour marquer une dernière pause et s'atteler, comme on vous l'annonçait, à la quête du joueur et de ses avatars. Quête du joueur et de ses avatars, une réflexion qu'Antoine, à qui je vais tout de suite redonner la parole, a voulu nommer d'une certaine manière contradiction et similitude. Alors, ça fait très joli comme ça, un petit peu flou pour l'instant, mais Antoine est à la rescousse pour vous en direct de Nosgoth. Antoine, c'est à vous.
J'arrive.
Tu mets tes ailes et tu arrives.
Exactement. Alors tout d'abord, encore une fois, j'aimerais faire un petit rappel sur le terme de gnosticisme et sur son étymologie. Donc, il vient de gnosis, qui signifie connaissance, qui est très lié, encore une fois, cette quête de connaissance est réellement ancrée dans la saga. Donc, j'aimerais aussi évoquer du coup l'article de Killscreen, Secret History of Legacy of Kain, qui développe un petit peu cet aspect, cette théorie. Donc, pour le rappeler, Kain et Raziel s'engouffrent finalement petit à petit, plus que dans une quête pour sauver le monde ou je sais pas quoi, s'engage dans une quête pour retrouver la vérité finalement, pour retrouver les vérités sur les différents peuples ayant occupé Nosgoth.
Oui.
Donc on retrace un petit peu l'histoire du monde de Nosgoth. Et pour combler un petit peu le vide des différents lieux traversés, on a la voix off. Alors, je suis désolé, le terme ne sera pas exact, les cinéphiles m'excuseront, hein, sans doute cette erreur. Mais on a donc la voix off des avatars, donc qui nous compte souvent l'histoire. C'est comme un petit peu une voix s'adressant directement aux joueurs. C'est un petit peu une lutte contre l'oubli qui marque le monde de Nosgoth.
On n'est pas dans les classiques personnalités troubles, voire clichés de la double personnalité. Là, on a vraiment le joueur marqué avec cette empreinte de ce passé, de quoi sont marqués les murs, finalement, de Nosgoth.
C'est ça. Je trouvais ça assez intéressant, puisque dans pas mal de jeux, on ne sait pas trop ce qui traverse la tête de l'avatar.
Ouais.
On a peut-être connaissance de ce qui traverse leur esprit à travers des dialogues, mais jamais dans une communication finalement aussi directe. Quoi.
On a peut-être les Max Payne qui ont fait ça aussi.
Et qui arrive après, du coup, non
Max oui, bien sûr. Non, par rapport, oui, si tu parlais effectivement à qui a tenté ça auparavant, oui, c'est sûr que la série des Legacy of Kain était marquée par son côté précurseur.
Voilà. Et donc la déchéance dont je parlais crée un espèce de vide que la voix off vient combler. Donc à chaque fois, c'est un rappel de ce que les lieux et les êtres étaient auparavant. On a notamment dans Soul Reaver 1, on traverse une cathédrale et l'histoire de cette cathédrale nous est directement contée par Raziel. Voilà. Donc à chaque fois, c'est un rappel un petit peu d'un passé révolu.
Et donc on a ces lieux peuplés. On a aussi des fois des êtres vivants, voire humains, qui peuvent un petit peu aussi témoigner de ce passé des fois limite encore plus ancien. Et alors on était sur la voix off, n'en déplaise comme tu disais aux cinéphiles, cinéphages, on n'a pas utilisé des mots comme diégétisme et compagnie, mais on essaye quand même de vulgariser pour que ça soit vite compréhensible. Sur la voix OX, on va rester pour parler du doublage du jeu qui est quand même très conséquent et assez peu fréquent à l'époque.
Oui, rapidement. Donc ce doublage était déjà présent dans Blood Omen 1 il y a un certain soin apporté à ce doublage au doubleur. Bon, apparemment, la version française est nettement moins soignée. Mais par contre, ce soin dans la version française a été apporté, décuplé dans la version française de Soul Reaver 1, avec des voix assez connues, donc notamment la voix donc de Benoît Allemann, qui est quasiment le doubleur officiel, je crois, de Morgan Freeman. Et vous avez peut-être entendu dans les pubs de Uncle Ben's aussi.
Voilà.
Référence moins glorieuse.
C'est ça. Puis surtout, cliché à la dent dure du doubleur noir au vendeur de riz de la cabane de l'oncle Tom. Il n'y a qu'un pas, racisme quand tu nous tiens. Donc, pour revenir à des choses, j'allais dire plus légères, mais non, parce que Nosgoth, depuis tout à l'heure, de ce qu'on voit, ça donne plutôt envie d'avancer à reculons, ce qui est paradoxalement la façon de la montée en puissance du joueur un petit peu dans la série des Legacy of Kain, Antoine.
Oui, exactement. Nos héros cherchent à remplir leur esprit. On cherche, comme je l'ai déjà dit, à retrouver donc la vérité. Donc le joueur, de manière assez classique, lui, cherche un petit peu la puissance physique à chaque fois. C'est-à-dire au cours des différents jeux, on acquiert des capacités.
Est-ce qu'il prend de la whey ? Non, pardon, je t'interromps gratuitement. C'était juste pour faire plaisir à Julien. C'était mon bonbon à moi. Chacun sa blague. Donc pardon, pour revenir à des choses plus sérieuses.
C'est vrai que le chemin habituel du joueur, c'est plutôt d'acquérir Julien. De nouveaux pouvoirs, d'avoir plus de vie, plus de pouvoir, plus de d'armes, etc.
Voilà, c'est ça. Et on peut dire d'une certaine manière que à travers cette espèce de gain de puissance de la part du joueur, donc il termine avec un héros rempli de capacités surnaturelles, on peut dire que le joueur finalement parcourt un chemin inverse à celui emprunté par ses avatars. Donc, ouais. À savoir la folie de Kane et attention, encore une fois, énorme spoiler, la mort, puis le sacrifice de Raziel. Parce qu'il meurt, il ressuscite et ensuite il se sacrifie. Pas mal. Pas mal pour un seul homme. et là-dessus, on a notamment un exemple que je trouvais assez intéressant que je tire de Legacy of Kain, Défiance, où à un moment, donc on traverse la tanière de Vorador, qui est l'un des grands mentors de Kain dans Blood Omen 1, qui est un vampire millénaire. Donc on traverse cette tanière et donc à un certain moment on a donc d'énormes fontaines d'eau et en avançant on transforme ces fontaines d'eau en fontaines de sang. C'est en quelque sorte une espèce de symbolique encore une fois de la déchéance. C'est-à-dire on progresse tout en recréant symboliquement la chute des vampires.
Mmh. Oui, bien sûr. Et sinon, alors tu parlais justement de vampires. Comment est-ce que ce gain de puissance, il y a quand même un élément qui est caractéristique de Soul Reaver 1 à ce niveau-là.
Oui, alors dans Soul Reaver 1, on aspire la force, l'âme de ces lieutenants, la force des vampires, enfin de ces lieutenants, des lieutenants de Kain, et on acquiert leur pouvoir. On a par exemple le premier boss qui pouvait traverser les murs, et à notre tour, en aspirant son âme, on peut aussi traverser certains murs, certaines grilles. Voilà. Dans le 2, on a un aspect assez intéressant. Donc, là, du coup, ça coïncide un petit peu avec le but des personnages. On réactive des forges, en fait. On réactive des forges qui aideront l'arme principale du jeu, donc la Soul Reaver. On n'a pas vraiment évoqué, finalement, au cours de cette partie. Mais donc, c'est un petit peu l'arme ultime, l'arme principale. Une arme constituée d'âmes, en fait. C'est une espèce de
Soul Calibur.
De spirale étrange, un petit peu, ça évoque un petit peu le sabre laser, on va dire. Et donc dans Soul Reaver 2, donc on active ces forges qui nous aident à améliorer notre Soul Reaver. Et donc on réactive, c'est une réactivation matérielle finalement de mécanique de ce passé disparu.
Alors, voilà. Encore une fois, la symbolique et l'histoire nous colle au train sans nous lâcher. Et alors on a parlé de ça, on a parlé de réactivation directe ou symbolique du passé. On a parlé aussi beaucoup d'architecture et donc le fait, la dimension très très étendue, ce qui est assez rare, et la dimension de vide aussi par moment qui donne l'impression de se perdre. Et on se pose presque la question à un moment si le joueur avance vraiment dans la bonne direction.
Oui, parce que finalement, on a l'impression que sa direction est totalement inverse, comme j'ai pu l'expliquer, et inverse à celle de ses avatars. Mais au cours du jeu, donc, on apprend que Raziel est le seul personnage doté du libre arbitre, puisque dans le monde de Nosgoth, le dieu ancien contrôle la roue du destin.
D'accord.
Et pourtant, on a une contradiction au niveau d'un point de vue du game design, puisque le joueur ne choisit jamais. Oui. Il est toujours finalement guidé par un jeu extrêmement scripté. Même d'une certaine manière, le choix finalement le choix à la fin de Blood Omen 1 est arraché au joueur. dans le sens où on a une seule fin canonique finalement. On n'a jamais d'épisode qui nous compte, qui nous compte le moment où Kane accepte le sacrifice. Donc d'une certaine manière, un peu de manière similaire à ces personnages, le joueur est lui aussi prisonnier. Il est lui aussi promis un petit peu à une chute éternelle.
C'est tout ça seulement pour la modique somme de 60 euros.
C'est pas mal.
Ouais, ça fait envie. Ouais. Donc finalement, on se sort jamais de ce monde de Nosgoth. C'est un peu comme un pitch pour la réalité virtuelle. On a l'impression. Julien, exactement. Peut-être tu voulais rajouter quelque chose.
Non. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la Soul River qui est l'arme un petit peu. Mais bon, ce serait spoiler comme il y a beaucoup d'éléments. On a déjà donné beaucoup d'éléments.
Je crois qu'à ce niveau-là, tu peux te faire plaisir. les auditeurs auditrices qui nous auront suivis jusqu'au tréfonds de Nosgoth sont plus un spoiler près, je crois. Pas d'éléments de plus à rajouter. Antoine, peut-être sur cette dernière partie, un dernier mot avant d'avoir une pensée plus globale sur la saga Legacy of Kain qu'on vient de traiter.
Eh bien, écoutez.
À chaud, c'est toujours dur comme ça.
À chaud, oui. Non, on pourrait réévoquer, je pense, la portée. Je pense l'extrême portée finalement de la saga,
oui.
qui a tendance, je trouve, à être une saga un petit peu oubliée, mais qui a quand même eu une espèce de quand même d'influence un petit peu souterraine. Pour pas mal de jeux, quoi.
Elle a quand même une sacrée aura, c'est-à-dire que quand on se retrouve avec des personnes qui ont joué ou continuent de jouer aux jeux vidéo, même si elle vient pas toujours spontanément, c'est vrai que les yeux s'illuminent assez rapidement quand on a tendance à parler de Legacy of Kain, et en particulier, enfin c'est ce que j'ai observé, de Soul River.
Oui.
Donc des possibilités. Je pense que à mon niveau, ce qui revient le plus dans les discours, c'est vraiment la grandeur de l'univers et puis cette dimension, cette proportion à se perdre. Moi, c'est vraiment le souvenir le plus palpable que j'en garde à ce niveau-là. Et je refais le parallèle vraiment avec la série des Souls d'une lointaine ou voire peut-être qui sait volontaire filiation. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
Non, c'est clair. Et puis pour un petit peu parler, on va dire, des héritiers, conscients ou non, je mettrais les Souls. C'est peut-être aussi un petit peu Shadow of the Colossus, dans un sens. Même si Soul River a quelque chose, en quelque sorte, au niveau du game design, en tout cas, je pense, au niveau du game design et au niveau du level design, par certains aspects, il est un petit peu le brouillon de Shadow of the Colossus et de la série des Souls, dans le sens où, comme tu l'as dit, dans Soul River 1, on se perd assez facilement. On n'a pas de carte, on n'a pas de boussole, on n'a rien du tout. Alors que dans Dark Souls, on peut se perdre, mais ça ne sera pas à cause du level design, quoi, qui est extrêmement, extrêmement bien fait.
Ouais, on peut perdre, mais pas se perdre.
On peut perdre.
Voilà.
Dans Soul River 1.
Oui.
On retrouve ça aussi dans l'aspect un peu cryptique du jeu. Dans le premier Soul River, je me souviens que par exemple les téléporteurs qui permettent de rejoindre les différents endroits de la carte sont, il y a absolument pas d'indication, il me semble, de nom de lieu. En fait, on a des glyphes, des sortes de motifs qui apparaissent sur chacun des portails, et après c'est au joueur un petit peu de dessiner sa carte mentale de l'univers de Nosgoth.
Je pense que c'est un point vraiment important à soulever, dans le sens où je trouve que c'est cette histoire de repérage dans un monde en 3D total n'a pas vraiment été résolue, parce que je trouve que résoudre ça par des espèces de cartes à la GTA, à la Skyrim, c'est un peu la solution de facilité finalement. C'est un peu la solution de facilité, c'est un peu... je sais pas, je trouve s'excuser de ne pas avoir un level design parfait, s'excuser de même sans parler d'excuses, parfois je trouve que dans ces jeux, on a tendance à énormément regarder la carte qui se trouve généralement ou en haut
en bas à droite.
En bas à droite.
Ouais. Maintenant, oui, bah, plutôt en bas à droite. C'est vrai, ouais. T'as raison que historiquement, c'était plutôt en haut à droite, oui.
C'est assez intéressant ce que tu dis. Il y a des, j'ai pas encore eu l'occasion de m'y plonger, mais j'ai cru comprendre que Witcher 3, en fait, proposait une option pour supprimer le, justement, ce, cette carte.
D'accord.
En bas de l'écran ça. Avec tous les points. Et je pense que peut-être qu'on, là, le, c'est une porte ouverte aux joueurs. Voilà, vous avez la, la liberté, si vous le souhaitez, de vous perdre complètement dans cet univers qui, j'imagine, est beaucoup plus vaste que celui de, du premier Soul River. Oui, je trouve ça assez intéressant, oui, parce que comme toi, c'est un truc qui me chiffonne un peu dans ces jeux open world, c'est qu'on a tendance à aller d'un point, littéralement, c'est même pas d'un point A d'un lieu à un point B un autre lieu, c'est vraiment de, d'un point sur la carte à un autre point.
Oui.
Et je pense qu'il faut laisser donner un peu plus de latitude aux joueurs et puis lui faire confiance. Après, il y a aussi beaucoup de joueurs, je pense, qui sont restés passés à côté de Soul River, qui n'ont jamais trouvé le premier boss. Moi-même, j'ai mis pas mal de temps avant de trouver le premier boss. Non,
les mêmes qui ont vendu Demon's Souls à l'époque, peut-être.
Peut-être, ouais.
Bah, très bien. Donc oui, moi je vous rejoins complètement avec cette dimension, même si c'était encore. C'est dur de dire ça, mais si on remet avec le recul une ébauche à l'époque, mais assez révolutionnaire d'un monde, je dirais, un petit peu peut-être pas organique, mais on va dire vraiment viscéral. C'est-à-dire, moi, c'est comme ça que j'entends dans ce que tu disais, Antoine, c'est-à-dire cette possibilité de se perdre, bon, peut-être pas de flâner. Je vais reciter un article pour résumer dont j'ai déjà parlé, et je crois que si je retrouve, quelqu'un m'avait dit qu'il en avait retrouvé la trace. Si je retrouve, je le mettrai sur le Twitter ou le Facebook de l'émission, qui était Borné l'Open World de Rage Mag, qui voilà, expliquait beaucoup comment les mondes ouverts se dépatouillaient de déplacement des joueurs, enfin des joueurs, donc de nous joueurs avec notre avatar dans leurs univers. Donc ça allait de la cartographie à tendance très animiste en inspiration des jeux japonais, surtout des JRPG, à des dimensions urbanistes pour d'autres. Donc voilà, bah, je vais pas rentrer plus en détail, je pense que l'essentiel a été dit. Ouais. Et ben bah, voilà, on arrive doucement à la fin de cette émission. Oui, Antoine, il me semble tu voulais
on va peut-être conclure. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, on les a évoqués, mais on n'a pas parlé des textes très lyriques qui parcourent les différents Soul River.
Oui, c'est vrai. Parce qu'on parlait de William Blake, des inspirations poétiques. Oui, tout à fait.
Oui. Et donc, pour finir de déprimer nos auditeurs, j'aimerais terminer par cette belle phrase tirée qui conclut apparemment Soul River 1, que m'a laissé Julien en note. C'est « Le temps est un cercle, un minuscule rouage de l'usine universelle. Il suffit d'un grain de sable introduit par le manipulateur, d'une erreur infime pour plonger le monde entier dans un chaos infernal. »
Voilà, sur ce, voilà. Nous vous souhaitons une excellente nuit et nous vous disons à la prochaine fois et une excellente année 2016.
Ce qui est marrant, Antoine, c'est que toi aussi, tu as fait un petit peu de lyrisme quand tu parlais du joueur promis à une chute éternelle. On finit par contaminer le joueur et le chroniqueur de The Game, moi non plus.
C'est ça. On ne s'en sort pas, mais au moins, l'émission est enregistrée. Sur ce, on va marquer une dernière pause, comme vous le savez, pour notre classique « À quoi vous jouez ?» Section d'aucuns diraient obligatoire de Je Game Moi Non Plus, en tout cas pour nous toujours aussi plaisante, la partie à quoi vous jouez, et tout seigneur tout honneur, vu qu'Antoine tu as bien mené cette émission, on va te laisser commencer au jeu sur lequel tu passes du temps en ce moment, ou tu as passé du temps ces derniers temps.
Alors, moi, je joue pas mal à un vieux, enfin un vieux, pas exactement vieux, un RPG français de 2010.
Français, monsieur.
français monsieur qui s'appelle Winter Voices et qui est extrêmement original puisque les dans les combats généralement donc ça se passe comme un comme dans un tactical RPG avec des cases etc comme un Final Fantasy tactique et on doit plus que en tout cas au moins durant les trois quarts du jeu, il est excessivement difficile de tuer les ennemis. À chaque fois, on doit fuir. À chaque fois, les objectifs sont un petit peu de fuir les différents ennemis peuplant le jeu. Et autre point original, c'est que les thématiques sont assez assez particulières. Déjà, on incarne un perso obligatoirement féminin. On ne peut pas choisir un homme. D'ailleurs, il faudrait l'envoyer à Anita Sarkeesian, ce jeu. Non, mais je suis très sérieux. Il a un peu disparu. Oui, ça peut peut-être paraître être une blague, mais...
C'est juste que dit comme ça. Non, t'es sérieux, oui. Et il y a quoi d'autre qui te...
Ce qui me passionne aussi, c'est que généralement, les combats se déroulent dans les rêves donc de la jeune femme contrôlée. Et donc, les ennemis représentent un petit peu les différents traumas, les différentes peurs de cette héroïne.
Oui, d'accord. Là, tu me parles beaucoup. Hein. Tu parles à un fan de Lost Odyssey, donc forcément. Très bien, très bien. Tu peux nous rappeler le titre, du coup ?
Winter Voices.
Winter Voices. Est-ce que d'autres recommandations, une description peut-être plus du jeu ? C'est plutôt tactical, donc tu nous disais, c'est ça ?
C'est un tactical RPG. Alors après, faut être préparé à jouer à un jeu qui techniquement a d'énormes failles puisqu'il avait été développé sur Adobe Air. Faut être prêt à jouer à un jeu assez lent, assez parfois mal foutu.
D'accord.
Mais au niveau des mécaniques, il n'y a absolument aucun souci.
Oui, c'est vraiment technique. Si on dépasse ça, c'est une très chouette expérience. Bon, en tout cas, personnellement, sans faire de corporatisme, tu m'as fait envie. Julien, pour toi.
Justement, je continue avec un jeu mal foutu sur pas mal d'aspects, mais assez plutôt réussi. C'est Evil Within, le dernier jeu de Shinji Mikami, qui est sorti l'année dernière. Donc c'est pour faire simple, c'est une espèce de synthèse un peu de tout ce qui a été fait dans le Survival Horror. On retrouve un petit peu le gameplay, ça se joue comme Resident Evil 4. Enfin, je pense que c'est la grande référence d'Evil Within, avec énormément de clins d'œil au précédent Resident Evil. Par exemple, dès qu'on trouve le premier zombie, entre guillemets, qu'on croise, il y a exactement le même plan que dans le premier Resident Evil.
Et, c'est marrant.
On retrouve un petit peu... Il y a aussi, je pense qu'il a voulu intégrer des éléments de Silent Hill. Il y a... dans le jeu, régulièrement, on se retrouve dans un hub qui est une sorte d'hôpital psychiatrique et on est accueilli par une infirmière réceptionniste qui ressemble par certains traits à des personnages de Silent Hill. Enfin voilà, je pense qu'il y a ça, et ce qui est assez chouette dans Evil Within, c'est que c'est vraiment un jeu où on a l'impression que tout est possible. Je lisais un article dans le dernier JV Le Mag à propos de Resident Evil 4. Le jeu a eu un développement assez compliqué et on a l'impression, et c'est vrai avec le recul, que c'est un assemblage de plusieurs jeux. Et ce qui est intéressant dans Evil Within, c'est que il n'y a pas vraiment de cohérence, si vous voulez, d'un événement à l'autre. On peut passer d'un manoir très typique des survival horror à une zone un petit peu grandiose, comme on peut le retrouver dans un Dark Souls. Mais comme c'est justifié plus ou moins par le scénario, puisque ça se passe un peu dans la tête des personnages, ça ouvre plein de possibilités. On sent qu'ils ne sont pas trop fixés de limites à ce niveau-là. Et référence à Dark Souls aussi, dans le sens où le jeu est très très difficile. Enfin, c'est un jeu où beaucoup d'ennemis nous one-shot, qui est assez hardcore. D'ailleurs, petite anecdote qui m'a fait beaucoup marrer, je terminerai là-dessus, c'est que je suis en train j'ai refait le jeu plusieurs fois parce que on a toute une replay value assez intéressante. On peut développer son personnage, ses armes, etc. Un peu comme dans Resident 4. Et il me reste pour débloquer le dernier trophée du jeu, le mode Akumu. Et ce qui est marrant, c'est qu'Akumu, donc ça signifie cauchemar en japonais, ouais. Mais il y a également un mode nightmare, donc j'aime bien l'idée que le cauchemar japonais c'est soit ça, beaucoup ouais. plus hardcore.
C'est comme Aniki, et... mon frère.
Ouais, voilà. Et d'ailleurs, c'est et effectivement dans ce mode Akumu, donc là, c'est tout le... on se fait one shot par tous les ennemis. Enfin, c'est très 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 difficile. J'ai pas passé le deuxième chapitre, sachant que le jeu est très très. On retrouve voilà l'héritage de. De ces jeux à la Dark Souls avec un jeu volontairement hardcore mais plutôt plaisant quand on rentre dedans. Il y a aussi une vraie montée en puissance d'un chapitre à l'autre. Mikami s'est bien récompensé le joueur aussi après des passages difficiles en nous offrant toujours des trucs plutôt sympas, que ce soit en termes de mise en scène. Il y a beaucoup, ouais, beaucoup de bonnes idées dans le jeu. Enfin, je terminerai là-dessus parce que je pourrais en parler encore.
Ouais, des trucs peut-être donc, aussi plus ou moins digérés ou pas, mais on sent qu'il y a un côté. Peut-être que c'est le côté apaisé de, bon, puisque pas que Mikami, parce qu'il n'était pas tout seul évidemment, mais le fait qu'il ait enfin pu avouer que il s'était inspiré de Alone in the Dark, donc il avance l'esprit léger. sur
peut-être.
Ok. Bah très bien. Pour ma part, j'ai joué à Nier. Non, je plaisante en fait. C'est pas parce qu'il y a eu l'annonce du nouveau Nier Automata que je m'y suis remis, quoi. Que c'est toujours une excuse même quand il y a pas d'annonce. J'ai joué à Monkey Island. Mieux vaut tard que jamais. Donc Monkey Island 1 et 2 en l'occurrence. Je me suis beaucoup amusé, même si effectivement le click and play vraiment dans son point and click dans son essence même maintenant. Est un petit peu rude. Bon, faut dire que j'ai pas mis toutes les chances de mon côté, sachant que j'y ai joué sur Xbox. C'est vrai que sans souris, c'est un peu compliqué, mais il y a un menu contextuel et des raccourcis qui aident pas mal. Donc, je sais pas si j'aurais été si perdant que ça, si j'avais joué sur souris. Comme je disais, vraiment très très drôle. Moi, je reste sur un fou rire que j'ai eu sur environ de la fin du 1, qui n'est pas un spoiler sur la trame. On nous a suffisamment spoilé avec Legacy of Kain, et il y a une blague récurrente qui est l'histoire d'un singe à trois têtes, qui est une manière du héros Guybrush Threepwood pour distraire les ennemis, qui est attention derrière toi, un singe à trois têtes. Et vers la fin du jeu, il y a effectivement, si on utilise cette réplique, un singe à trois têtes qui pop. Donc voilà, c'est ce genre d'humour complètement taré, de jeu de mots british, de type avec qui on fait on gagne plus les joutes au sabre par des joutes verbales que par un talent à l'épée. Donc voilà, c'est assez extraordinaire à ce niveau-là. Et surtout, j'ai eu la chance de jouer aux éditions remastered, qui permettent en une touche, on parlait des changements de ténèbres à monde des lumières et autres, de passer à la version de l'époque à aujourd'hui. Et c'est très drôle quand même de se dire, alors pas dans un côté vieux con, c'est bien fichu et tout, parce que globalement, je suis quand même resté sur la version remaster, aussi parce qu'elle avait un doublage vraiment qui suivait tout du long. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a parfois des illustrations de l'époque qui avaient plus d'impact et qui étaient plus chouettes que les illustrations actualisées. Donc voilà, ça n'a pas d'âge. Bon, ça peut être un peu rebutant, comme je disais, je vais pas m'éterniser, mais c'est quand même, je pense, à avoir fait, parce que ça a son lot d'humour et d'aventure complètement déjanté. Voilà qui clôt cette 39e émission de Je Game Moi Non Plus, hein, émission qu'on aura cru jusqu'au bout, maudite de par son enregistrement.
À moins que un dieu farceur qui est créateur du monde ait décidé de supprimer l'enregistrement.
C'est ça, avant même qu'il puisse être extrait, il va disparaître dans les limbes de Nosgoth. Pour revenir à Je Game Moi Non Plus, si vous me suivez, comme vous savez, vous pouvez nous retrouver sur le site www.jegamemoinonplus.com. On vous encourage à nous laisser des commentaires sur cette émission ou sur les autres que vous avez écoutées ou que vous écouterez. Diffusez aussi autour de vous la page Facebook, page éponyme, hein, Je Game Moi Non Plus. Le Twitter, @JGMNP, où on met des cocasseries, des vannes entre nous, des vannes ou des petits pokes, notamment avec Antoine, un tweet assez récent avec Antoine que j'ai un petit peu. Je suis venu un peu chercher pour lui apprendre qu'il y avait maintenant un tournoi de e-sport sur Rocket League, et son sang n'a fait qu'un tour et il s'entraîne durement depuis.
Exactement.
Et puis voilà, vous nous retrouvez les enregistrements sur iTunes ou sur le site, sur d'autres plateformes dédiées qui aussi nous relaient parfois. Voilà, qui clôt cette émission, et je vais laisser la parole de nouveau à Antoine qui s'est chargé du générique de fin. Alors Antoine, qu'est-ce que tu as sélectionné aujourd'hui pour laisser nos auditeurs et auditrices musicalement?
Alors, je vous ai choisi une piste qui n'est pas tirée d'une BO de jeu vidéo, mais oui, une piste chiptune, donc d'un artiste qui se surnomme Seal of Quality.
Ouais, Seal of Quality, vous... ça me rappelle des cartouches Nintendo, tout ça.
Ah bon? Et donc, il est assez particulier, cet artiste, puisque c'est un espèce de one-man band qui donc joue avec une guitare, un clavier et trois Game Boy.
Voilà. Rien que ça.
Trois Game Boy, histoire d'en foutre partout, de faire plein de pistes, et d'avoir un rendu assez, à la fois assez rock et assez synthé, qui est du plus bel effet. Voilà.
Bon, eh ben, très bien, des fuites de son chiptune, on ne demande que ça, et puis c'est bien ça.
Et donc,
oui, Antoine.
Détail supplémentaire, la piste s'appelle Now You're Playing, et elle est tirée de l'album Life Hacks.
Parfait, les précisions jusqu'au bout des ongles. Merci beaucoup. On vous dit à très bientôt. Et puis n'hésitez pas, comme on disait, à nous faire des retours. Donc rendez-vous le mois prochain, ou peut-être même avant. Ciao, bye.
Ciao.
Ciao.